juste avant de passer le film, des petites conversations que j'ai eues ici. Il est primordial dans le système que je vous ai décrit, qui n'est pas le meilleur, encore une fois, c'est un témoignage, que tout le monde comprenne comment fonctionne le chef. Vous savez qu'en France, quand on a un nouveau comité d'entreprise, hein, parce que nous, on n'a pas de syndicat, c'est-à-dire qu'on fait appel aux syndicats tous les deux ans, qui viennent faire leur cinéma, et il y a carence. Personne ne se présente de syndiqué. Il y a carence au premier tour. Donc au deuxième tour, passent des gens non syndiqués. Et là, on a tous un cadre. On a le comité d'entreprise, HSCT, la commission de GPEC, enfin toutes les trucs, commission Habitat, etc. Et moi, chaque fois qu'il y avait un nouveau, de nouveaux délégués du personnel élu, je les réunissais tous, hein, ça peut faire 50, 60 personnes, et je leur disais, voilà comment je fonctionne. Pour moi, est juste ce que je céderai sous la menace. C'est-à-dire, quand vous me demandez quelque chose, je vais me dire, s'il se casse, qu'est-ce que je fais? Donc sachez-le. C'est-à-dire, si je ne cède pas, je ne céderai jamais. Pour moi, je suis l'auto et pas l'autrie. C'est-à-dire qu'un gars fasse le tour du monde avec sa famille, je suis d'accord. Un gars gagne une bagnole, je suis d'accord. Que chacun ait 100 balles, je ne suis pas d'accord. Donc ne me proposez pas des choses de loterie. Proposez-moi des choses, loto. Et je l'explique. Parce qu'au loto, il n'y en a qu'un qui gagne beaucoup, mais tout le monde rêve. Dans la loterie, tout le monde gagne un peu et personne ne rêve. Alors si vous me dites, c'est le rêve. Je leur dis aussi, moi je suis justice ou égalité. Je ferai toujours des choses justes ou égalitaires. Jamais les deux, parce que c'est le bordel. Hein ? Il est juste qu'on récompense que les ouvriers qui mettent des actions en place. Puisque le reste de l'entreprise est payé pour être en place. C'est pas égalitaire. Non, c'est pas égalitaire. Mais c'est juste. Il est juste, on a un trophée pour le présentéisme, hein, quand on a moins de 3% de présentéisme, les ouvriers qui n'ont pas été absents, ouvriers, ouvrières, bien entendu, pendant 3 mois, on met le nom dans un chapeau, on y reçoit 1000 euros. Quand j'ai fait ça, c'est juste. Parce qu'il est plus dur d'être sur machine à 4h du matin qu'au bureau à 8h. Et quand les secrétaires m'ont dit, oh, c'est pas égalitaire, je dis, non, c'est pas égalitaire. Si vous voulez, je vous mets sur machine. D'accord. Il est égalitaire, on est tous le même intéressement. Mais c'est pas juste. Non, c'est pas juste, mais c'est égalitaire. Donc, vous voyez, je vais en donner un certain nombre de critères qui sont importants. Je crois que dans ce système-là, il faut que la collectivité comprenne comment fonctionne le chef. C'est déjà aussi un sentiment, c'est un générateur d'osmose entre les gens. Quand on ne sait pas comment raisonne le chef, on ne sait pas comment répondre. On est paumé, on dit, attends, alors il faut être constant dans ses défauts aussi, hein, dans ces cas-là, comme dans ses qualités. Mais il faut aussi être constant dans ses défauts. Et je leur disais aussi, moi j'ai tendance à ouvrir la porte avec les têtes. Avec la tête. Ça fait mal, mais la porte s'ouvre. D'accord. Donc vous étonnez pas si vous la porte avec les têtes. Je suis comme ça. Et je raconte les mêmes notes que je te racontais. Quoi. On s'inspire, je me retrouve deuxième latte, je vais être aspirant, je vais casser un carreau à la mairie pour arracher une page du genre officiel. Mais je ne pose pas de questions. Quoi. Tu vois, quand je mets ce colonel, il me dit, mais quand j'ai eu la page, je dis, devinez. Il me dit, il y a la mairie qui a porté plainte parce qu'on a cassé un carreau. Si qui veut que ce soit, c'est moi. Hein. Je raconte l'histoire. Alors moi, je ouvre la tête, il y a un truc que je ne comprends pas, je sais qu'il y a le journal officiel, je sais qu'il est à la mairie, je ne peux pas sortir de la caserne parce qu'on me prend pour un con. Je fais le mur, je vais casser un carreau, et puis je prends le papier, je ne pose pas de questions. Moi. Voilà. Je raconte ça, tu vois, pour ceux qui sachent comment je fonctionne. Et ça, c'est important, ce truc-là. Alors, le film. Alors, il est un peu vieux, le film, mais rien n'a changé, parce que Dominique, que vous verrez, c'est un gamin qui rentre à la Faville, c'est le système qui est déjà en place. Mon successeur, c'est un gars rentré à Faville à 20 ans, avec un bac technique. Et il est rentré comme ouvrier dans une mini-usine. Et puis, avec tour d'usine, j'avais repéré, parce qu'il avait l'œil qui brillait. Donc, je l'ai passé en qualité. Et là, il a passé un BT ou un BTS. Et j'ai passé au commercial. Hein. Et là, il a éclaté toutes les choses. Il s'occupait de Renault, de Jean-Luc chez Peugeot. Et là, je l'ai formé sans lui dire pendant 10 ans. J'avais fait une conférence en Belgique, il y a longtemps, ça, j'avais 49 ans, avec un certain Van den Bulk. Van den Bulk, c'est un médecin. Tu connais donc peut-être le nom Van den Bulk ?
C'est un expert européen.
Ouais. Et on intervenait à deux sur une péniche, je me rappelle, avec des clubs de patrons belges. Et à la pause, Van den Bulk me dit, t'es un patron charismatique, toi. Là, je dis oui. Il me dit, t'as quel âge ? Ben, j'ai 49 ans. Il me dit, tu sais qu'il faut 10 ans pour former son successeur. Cherche-toi ton successeur qui soit un homme de métier. Parce que si tu prends un gars qui te ressemble, les ouvriers vont être paumés quand tu vas partir. Et j'ai Dominique qui est en stock. Et Dominique, donc, je le forme pendant 10 ans sans lui dire. En même temps que d'autres. Je l'envoie en Chine, au Japon, en même temps que d'autres. Et tous les deux ans, je l'envoyais à Max Rousseau, sur un prétexte quelconque, pour qu'il ait été étalon. Puis vous avez bien tant qu'il continue. Donc, il me le validait. Mais il ne savait pas, Dominique. Hein. À 59 ans, je prends Dominique et je dis, Dominique, là, j'aurai 60 ans en janvier, je suis né en janvier, je vais faire un dernier discours parce que j'ai un discours formel tous les 6 mois. Où je suis, où on va, et ce qu'on va faire pour y aller. Parce que je rendais compte. Et donc je dis à Dominique, là, je vais faire un dernier discours, et à partir du 1er janvier, c'est toi qui seras le chef. Et là, il tombe des nues. Alors, entre-temps, il avait fait l'ISAM, Institut Supérieur d'Administration et de Management. Mais spontanément, ça, comme ça. Mais, hein. Et là, il tombe des nues. Il dit, non, je ne peux pas vous remplacer, c'est pas possible. Vous êtes un dinosaure. Ben, j'ai dit, ça tombe bien, ils sont tous morts. Et puis, il passe deux jours, il réfléchit, il revient, puis il dit, non, j'ai réfléchi, non, c'est pas possible, j'écoute Dominique. On est otage du bonheur de 600 familles. Et il me dit alors, quand on est otage, on ferme sa gueule. Hein. Et donc il a pris le relais. Hein. Et alors, donc moi je suis resté à 6 mois en doublure avec lui, puis après j'ai un programme d'actionnariat que j'ai mis entre temps. Après, mais à partir de mon discours, je n'ai plus jamais descendu dans l'usine. Hein. Depuis le 1er janvier 2004, je n'ai plus jamais descendu dans l'usine. Vous voyez les gens sur le parking, je n'ai plus dans l'usine. Et donc en 2007, il y a un gars qui m'appelle, fin 2007, un gars qui m'appelle, qui dit, je suis journaliste à FR3, j'ai un budget pour faire un film Profession Patron. Et lui, ça ne m'intéresse pas, je m'accroche. Le gars rappelle, enfin, monsieur Doré, c'est quand même, attendez, monsieur, on n'a jamais vu quelqu'un refuser de passer à la télévision. Je dis, attends, mais vous m'intéressez pas avec vos conneries. C'est n'importe quoi, l'important, c'est pas les patrons, ce sont les ouvriers. Et le gars me dit, attends, je comprends pas. Et là, je lui raconte l'histoire de l'ouvrier qui m'avait dit, c'est le bon ouvrier qui fait la belle usine, le rôle du patron, c'est de faire des bons ouvriers. Puis on discute un peu. Puis je vais voir. Début janvier, il m'appelle, ou courant janvier, il m'appelle, puis il me dit, écoutez, j'y vais avec FR3 et Planète, ils sont d'accord pour faire un film sur la confiance. Je dis, ok. Et il vient deux mois, donc sans caméra. Puis après, il filme. Quand il a fermé, il a filmé. Alors, entre-temps, on devient copain, c'est un gars bien. Je travaille en ULM, puis un petit pour ULM. Si tu t'intéresses pas que je te fasse un film sur toi en ULM, je dis, pourquoi pas, alors, il monte sur notre ULM, il me filme, puis il me donne un truc où il y a une heure pour mes vieux jours, je regarderai ça. Et puis il me dit, bon, tu viens pour le montage. Je dis, non, je ne veux pas le voir. Tu montes le film avec les acteurs que tu as choisis. Puis après, il me dit, je vais te montrer le film. Je dis, non, je ne veux pas le voir. Tu le montes à toute l'usine par groupe de 25. Si une personne te fait une remarque, tu modifies ton film. Et je le découvre à la télé. Et en fait, il a fait une profession, il a fait un film. Alors, il m'a filmé à un moment donné, je lui ai dit, je ne veux pas apparaître. Il m'a dit, non, mais tu seras en voix off. C'est pour ça que j'ai la cravate de travers. Et alors, en introduction, vous voyez que je suis sur mon lieu d'âme. Je lui ai dit, pourquoi tu as mis ça? Ben non, un patron 600 personnes, c'est au moins un bimoteur, toi t'es une merde, moi ça tient en l'air, parce que c'est marrant, quoi. Puis après, je lui ai dit, on me voit quand même beaucoup dans ton film, tu ne devrais pas y apparaître. Il dit, c'est pas moi, c'est les ouvriers qui ont demandé que t'étais. En fait, il a fait un peu un film Profession Patron. Quoi. Alors, je vous donnerai la référence du film, si vous voulez le voir. Si vous voulez le montrer, il y a certains trucs, Julien Lippi, c'est un gamin qui, avec son frère, ont hérité d'une usine de grillage, une petite pauvre, 300 salariés, de son père et du tonton. Et Julien Lippi, à un moment donné, m'appelle, c'est vieux, ça, Julien m'appelle, puis il dit, monsieur Doré, on va aller dans le changement, mais j'y arrive pas. J'ai ma RH, il faut tout en l'air dans ce que je veux faire. Et je lui montre le film. Et elle a complètement basculé, nana. De voir le film, de voir que c'est possible, elle m'a dit, elle l'a regardé trois fois de suite. Et c'est devenu l'acteur majeur du changement. Tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui essaient de travailler malgré leur patron, qui proposent à leur patron de regarder le film, et ça les débloque. Parce que le patron, souvent, c'est un gars qui est dans un microcosme, il est au Rotary, au truc, machin, un microcosme local, où ils sont tous en contrôle. Hein? Et il ne peut pas imaginer qu'on peut vivre sans contrôle. Mais, tu vois, parce que dans son microcosme, tout le monde fait comme ça. Hein, il rencontre le sous-préfet, le truc, au Rotary, tu vois le débranleur. Hein? Bon, je n'ai rien contre le Rotarien, enfin bon. Tu vois des gens un peu has-been quand même, quoi. Hein? Un sous-préfet, un truc, un machin, c'est quand même pas l'avenir de la France, quand même. T'as la recteur d'académie dans ces trucs-là, bon, on se ronronne, quoi. Et le gars, devant le film, pense à le débloquer. Merde, c'est possible. Hein? Non, à la limite, vous allez faire comme ça. Alors, je donnerai à Laurent, dès ce soir en rentrant, une liste de références que je vous recommande. Vous faites ce que vous voulez, vous démerdez, je m'en fous. Les bouquins de Guest, notamment, qui est intéressant. La référence de mes bouquins, même qu'ils les achetaient pas, lisez plutôt les fiches. Si c'est pour acheter les bouquins et laisser sur votre table de chevet, jamais les lire, ne les achetez pas. Hein? Regardez les fiches déjà. Hein? Si vous voulez plus loin, achetez les bouquins. De toute façon, déjà, vous lisez ça, dans tous les sens, sachant que là-dedans, le plus important, c'est ce qui est marqué à la fin, en vrac. Et là, vous retrouvez l'auto. Là, vous retrouvez justice, égalité. Là, vous retrouvez ces trucs-là en vrac. Vous retrouvez faire en allant. Vous retrouvez sortir de son bureau, aller sur le territoire de l'autre. Enfin, tous ces trucs en vrac. Alors, on va envoyer le film.
Qu'est-ce que j'ai coupé mon stylo ? Je vais faire une note. Toc.
formation managériale, je pense qu'essentiellement, c'est...
Ça ira mieux comme ça, vous allez voir.
Managériale, je pense qu'essentiellement c'est moniteur de vacances et officier. Donc, quand vous avez le même âge que les gens qui sont avec vous, il faut trouver des ficelles là aussi pour s'imposer. Et en fait, j'ai appris inconsciemment à faire en sorte que les choses se fassent d'elles-mêmes. Le management, c'est pas faire, c'est une forme de laisser faire pour faire en sorte que les choses se fassent d'elles-mêmes.
A failli, quand nous sortons du parking, vous tombez sur un arbre. Vous voyez que là, à l'entrée du personnel, il y a un arbre de dessiner. La vocation d'une entreprise, c'est de durer. Nous, on s'est fixé comme vocation de durer à un long cours, dans notre village en plus. Et on a pris comme symbole l'arbre, parce que l'arbre est le seul être vivant qui a pour seule vocation la durée.
À Alencourt, un petit village proche d'Abbeville et de la baie de Somme, il y a une usine, la Favie. Cette fonderie de près de 600 salariés fournit à elle seule la moitié de la production européenne de fourchettes de boîtes de vitesse, ainsi que des rotors, des moteurs électriques et diverses pièces sanitaires. 80% de son activité est consacrée à la sous-traitance automobile, un secteur où l'on délocalise beaucoup et où les contraintes techniques et financières imposées par les constructeurs sont souvent brutales. Malgré cela, en ce printemps 2008, la Favie affiche toujours de confortables bénéfices et semble durablement accrochée à son village. Le secret de cette réussite se trouve résumé dans un livre au titre quelque peu angélique, La belle histoire de Favie, ou l'entreprise qui croit que l'homme est bon.
Je dirais que les grandes valeurs fondamentales, dans le fonctionnement proprement dit, c'est que la performance vient des ouvriers, et qu'il n'y a pas de performance sans bonheur, et que pour être heureux, il faut être responsable. Donc il faut faire le maximum pour que les ouvriers soient responsables. D'où la notion d'une usine, d'où la notion d'autonomie, d'où la notion d'absence de contrôle.
Notre organigramme chez nous, notre organisation, ce sont des mini-usines, des groupes de personnes, de 20 ou de 30, et ces mini-usines sont rattachées à un client. Donc on ne parle pas du client, mais on parle de son client.
À la tête de la mini-usine, il y a le leader, un ancien opérateur coopté par ses collègues. Véritable chef d'une petite entreprise, le leader dirige sa mini-usine en totale autonomie. En contact permanent avec son client, il reçoit directement les commandes, définit l'organisation des équipes, les horaires, les congés, les prix, les augmentations de salaire, les investissements, les embauches et les licenciements.
Je suis rentré en 85 comme opérateur pendant 7-8 ans. Et maintenant, je suis leader sur tel cas. Pourquoi je suis chez Favie? Je suis rentré en 85 et je devais rester qu'une année. C'est le système de management qui a été mis en place par M. Zobris qui a fait que je suis resté là.
Ce qui différencie vraiment le système Favie par rapport à d'autres usines, c'est qu'on travaille sur deux niveaux. Il y a le directeur, et après il y a nous les leaders.
Il y a deux niveaux hiérarchiques au lieu de 7 ou 8.
Au lieu de 7 ou 8, habituellement.
Ce qui est bien dans le rôle de leader, c'est que tu gères le produit que tu commandes en fonderie, puisque là tu l'amènes dans le camion. D'accord ? Là, il y a un gentilité qui passe derrière et qui contrôle, qui fait des prélèvements. Si ces pièces OK, on met ça dans le camion.
C'est le même individu avec son équipe qui gère depuis le choix des fournisseurs, la réception des machines, toute la transformation, et chez nous, est assez longue, parce qu'il y a la fonderie, il y a la découpe, il y a le usinage, il y a l'assemblage, il y a l'expédition, etc., qui va gérer tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas ça du personnel. C'est pour ça qu'on n'a pas de planning. C'est pour ça qu'on n'a pas tous ces services parasitaires. Parce qu'il n'y a pas de tension.
début, mon leader, je croyais que j'étais chef. Mais en fin de compte, non, c'est pas ça. Nous, ce qu'on demandait à un leader, c'est d'être un bon manager d'un groupe. Et surtout que d'être crédible envers les opérateurs, hein, je pense. Hein, c'est ça. C'est ce qui renferme tout. Hein. Si vous êtes con avec. Je pense que si vous êtes con avec des gens, ils vont être cons avec vous, ça c'est sûr. Ils vont vous le redonner. Sûr. Donc, pour moi, ce qui me sauve, c'est que j'ai quand même été opérateur pendant 8 ans. Et puis je sais ce que c'est la production. J'essaie de se lever à 14 du matin pour aller bosser, hein, faire des pièces. Et ça, c'est pas évident. Opérateur, franchement, c'est pas évident.
Vous savez, le pointage, on fait confiance en l'homme. Donc, si le gars il est payé pour qu'on s'adresse à 5 heures, il sera là à 5 heures. Et s'il arrive en retard, quand on arrive mis 8 heures au matin à 8 heures, le gars nous prévient. Jean-Luc, je suis arrivé en retard. Donc, il fait 10 minutes de plus ce soir. C'est-à-dire, il n'y a pas de gendarme pour surveiller ce qu'il fait l'opérateur. L'opérateur, il est formé en toute autonomie. On parle d'autonomie. Donc, si le matin, tu parles d'autonomie et puis tu mets le gendarme derrière le gars, c'est pas possible, quoi.
L'homme est comme on le considère. Si vous fermez tout à clé, il devient voleur. Si vous ouvrez tout, il ne vole pas. En fait, on fait tout ce qu'il faut pour que l'homme soit mauvais. Vous avez le système de pointage qui disparaît de plus en plus. Ça veut dire que le gars n'est pas arrivé dans l'entreprise, qu'on le soupçonne de faire exprès d'arriver en retard. Parce que s'il ne fait pas exprès d'arriver en retard et qu'on sanctionne, c'est profondément injuste. Dès qu'on fait ça, le gars a un comportement d'une entreprise qui est négatif. On prend pour un con. Je me comporte comme un con.
Alors là, Sébastien travaille une heure. L'heure seconde après, il ira travailler au fer. Travaille toujours dans la polyvalence pour dire de changer les mouvements des bras.
Donc sur les lignes, les gens, comme on les rend autonomes et polyvalents, ils aiment bien tourner chaque heure sur chaque poste. Donc parce que sur les lignes, tu as des postes qui sont moins pénibles que d'autres. Il y a toujours le problème de répétitivité, mais qui n'est pas le même. Tu ne fais pas la même opération à la première machine qu'à la deuxième, à la deuxième qu'à la troisième, et ainsi de suite. Chez Favi, je suis rentré en 1994, donc ça fait 14 ans. J'ai 12 ans d'entreprise et 2 ans d'intérim. Sinon, avant, j'ai travaillé dans une serrurerie du nœud. C'était 8 heures sur la même machine, c'était juste qu'il ne fallait pas demander pour aller aux toilettes. Mais c'était vraiment surveillé, quoi. Il y avait toujours quelqu'un derrière nous, c'était pas du tout le même système qu'ici. Ici, à partir du moment où vous faites votre travail, vous ne vous dira jamais rien si vous allez boire un café tous les heures, quoi. Tandis qu'il y a des entreprises où je travaillais avant, c'était pas du tout comme ça, quoi. C'était 5 minutes tous les 2-3 heures et c'est tout, point d'heure.
Alors, nous ne sommes pas chronométrés, mais on a une cadence horaire à respecter. Mais c'est nous qui gérons la production, en fait. Le principal, c'est que les 1800 pièces en 8 heures soient faites en fin de journée. Je ne veux pas dire qu'on fait ce qu'on veut, mais bon, on est très libre.
Quand on vit certaines entreprises, on voit une blouse blanche pour une blouse bleue. Pour faire court, on pourrait dire qu'il y a un fouetteur pour un rameur. Effectivement, le rameur rame plus vite qu'il pourrait ramer chez nous. Mais le bateau va moins vite. Le bateau va moins vite tout simplement parce que d'abord, on n'a pas le poids du fouetteur à supporter. Et deuxièmement, dans la première entreprise, ni le rameur ni le fouetteur savent où ils vont, ni comment y aller, ni pourquoi y aller. Alors que dans notre système, chaque opérateur, chacun des collaborateurs, sans fouetteur, sait parfaitement où il faut aller.
Dans le système habituel, quand tu as un rigueur, il va régler la machine, il arrive, il règle la machine, il sort une pièce bonne, deux pièces bonnes, puis après il s'en va, quoi. Et on met l'opérateur dessus, et au bout de 2 heures, tu as le contrôleur qui passe, il prend une pièce, ah ben non, c'est pas bon. Qui c'est le responsable? Celui qui vient de faire les pièces, qui n'était pas bonne, comme ça se passe, de toute façon, on dit c'est celui qui l'a fait. Ou alors le régleur au départ qui a mal réglé la machine. Dans le système Favi, c'est toi qui règles la machine, et c'est toi qui les fabrique les pièces, et c'est toi qui les contrôle. Il y a une connerie, c'est lui qui l'a en fait, quoi. On ne peut pas mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre, on ne peut pas dire c'est de la faute du régleur ou c'est de la faute du contrôleur. C'est un peu une méthode artisanale.
Donc ça veut dire que ce système très hiérarchique est générateur de conflits.
Oui.
Bien dormi ?
Ouais.
Bon, c'est parti. Quand je travaille du matin, je me lève les 3h30 du matin pour partir de chez moi vers 4h15 pour un début de poste à 5h. Et ça pendant 5 jours.
Et la semaine suivante, c'est l'après-midi, 13h21.
Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai, hein? Bah ouais, faut que je le regarde. Ouais. Donc là, je suis au contre-perçage, contre-emballage. Donc contrairement aux autres entreprises où j'ai travaillé, ici on ne pointe pas. On arrive, on regarde le planning et à 5h, on démarre la production.
Et là, c'est parti pour 8h.
Et là, c'est parti pour 8h. Voilà.
Quel état tu es au bout d'une heure, très fatigué?
Très fatigué, ouais, très fatigué. Et toujours un coup de beurre vers 10h, ça c'est sûr. C'est un rythme à prendre. Et bon, très fatigué en fin de journée, c'est clair. Voilà. Et le pire, c'est que ma journée, moi, n'est pas terminée, parce que j'ai les enfants l'après-midi, donc voilà.
Tu préfères quoi, d'être matin ou après-midi?
Du matin. Quand même du matin, parce que l'après-midi, c'est vrai qu'on a des choses à faire tout seul, mais après, t'as pas trop de temps. Et pour les enfants aussi, parce que moi, je les vois pas le soir, donc
comment ça vient-il?
De l'opérateur, pas de moi. Pas de moi. Si eux arrêtent de travailler, ça va se terminer très mal, très vite. La performance vient des opérateurs. Je persiste à croire que sinon nous gagnons gentiment bien notre vie, ce qui nous permet de développer, de nous diversifier, alors que mes confrères sont en rouge, c'est parce que mes opérateurs sont 2 ou 3% plus productifs que les leurs. C'est tout.
Ils le sont. Pourquoi?
Parce qu'ils sont moins malheureux. Parce qu'ils sont plus heureux. C'est tout, moi parce qu'ils sont plus autonomes. Parce que chez nous, on dit pas à un gars, tu te mets sur telle machine, le matin, il voit qu'il y a 8000 pièces à faire, il se débrouille entre eux, il faut 8000 pièces à faire. 50% de nos baisses de coûts sont des idées d'opérateurs qui font tout seuls.
T'as des gens qui rentrent, que pour appuyer sur un bouton, en gros, on va dire. Et puis en parlant avec eux, mais les gens sont riches, savent faire d'autres choses. Donc on dit, tiens, si on l'a orienté sur tel machin, peut-être qu'il pourra amener. Telle amélioration sur la machine.
Voilà, je fais plus vite pour se quand même. C'est qu'il faudrait
tourner la machine.
Déjà la retourner, ouais, pour avoir dans le sens, pour avoir les pièces qui arrivent de chaque côté, non pas dans le dos.
On essaie de réfléchir sur l'amélioration du poste de travail sur une ligne. On s'est aperçu que l'opérateur, d'autant plus nous, ouais. Puisqu'on tourne dessus, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de rotation de bassin.
Trop de rotation, oui.
Donc la plupart des opérateurs se sont plaints, entre guillemets, fait du mal de dos, surtout le mal de dos. Hein.
Ouais, mal de rein, quoi, mal de rein. Bas du dos, et puis bon, un piétinage aussi, parce que fatalement, on tourne pas que le bassin, on marche aussi, donc ça piétine, beaucoup. Ce qui fatigue énormément, quoi, en fin de journée.
T'es crevé.
Donc bon, bah, on a commencé avec un plan, bien sûr. Qu'on a scanné et puis qu'on a découpé pièce par pièce.
Et qu'on a modifié et remodifié
pour
justement trouver vraiment le.
On a bien fait trois essais, quoi. Trois essais avant de réussir à.
À que ce soit validé.
À le faire valider. Ouais.
C'est que ces crosses-là, ils arrivent ici. En dessous de la machine. En passant en dessous, la rivière, ils pourront rectifier la porte. Hein. Puis la remonter un peu s'ils veulent l'ouvrir sans avoir de problème. Et puis rallonger le rail ici, qui va venir ici à la place de celui-là. C'est tout. Comme ça, tout est ici et ici. Voilà. Pour pouvoir travailler.
La plupart des entreprises ont des boîtes à idées. Déjà, dès le démarrage, c'est bâtard. Les idées d'ouvriers sont jugées par le cadre. Comme on le veut qu'un cadre, juge une idée d'ouvrier. Nous, on ne parle pas d'idée. L'idée, c'est rien, l'idée. Mais laisser l'individu aller de l'idée à l'action, c'est son autonomie. Lui dire, donne-moi ton idée et on regardera si on pourra la mettre en action, il n'y a pas d'autonomie. Et le gars a l'impression qu'il se fait voler son idée, même si on donne 4 sous derrière.
Je pense qu'à un moment donné, les idées des opérateurs doivent être récompensées. Les opérateurs...
Vous stimulez quand même, vous stimulez ça.
Oui, les opérateurs sont moteurs hein, dans la mise en place d'actions d'amélioration. Alors effectivement, on stimule par les différents trophées.
Alors, c'est Bruno Louverne.
Chez Favi, les trophées sont réservés aux seuls ouvriers, héros d'un système qui stimule et valorise leur performance. Celui des parrains productivité attribue chaque mois une prime de 1000 euros à l'auteur d'une action d'amélioration dans ce domaine.
Félicitations, parce que vous avez remporté le prix des parrains productivité pour ce mois de juin. Donc félicitations, on l'applaudit.
Alexandre a gagné ce trophée grâce à la mise au point d'un ébavureur, un outil simple et efficace permettant d'éliminer les bavures de métal générées au cours de l'usinage des fourchettes.
On fait quand même de grosses quantités de pièces par jour, et c'est toujours 2 trous par pièce. Et quand on calcule à la fin de la journée, ça provoque quand même une bonne fatigue de l'opérateur, non seulement au niveau du poignet, mais aussi au niveau de la paume de la main. Donc quand on m'a mis sur cette machine-là, j'ai mis au point, en réfléchissant à un tournevis mécanique, vous savez, les tournevis que quand on appuie, ça serre les vis, quoi. Ben, c'est le même système, sauf que là, il y a une petite fraise au bout, et quand on appuie, la fraise se met à tourner automatiquement, hein, et quand la bavure saute.
Il y a le côté réputation, c'est vrai, mais il y a aussi le côté salaire qui joue. Hein. Comment c'est quand même pas rien, une prime de 1000 euros pour un objet fabriqué en 2 heures.
Bonjour.
À la veille des vacances d'été, les bénéficiaires des 12 trophées productivité de l'année concourent à nouveau pour le trophée Kaizen, du nom d'une méthode de progrès conçue au Japon. Ce trophée est récompensé par l'attribution d'une voiture. Cette fois, le jury est composé de professionnels de l'industrie, extérieurs à l'entreprise, assistés d'un huissier de justice. Chaque candidat propose une action qu'il présente au jury, d'abord en salle, puis sur son poste de travail. À la fin de la journée, le jury se réunit à huis clos et choisit la meilleure action. Ce choix est tenu secret jusqu'à la remise officielle du trophée, le jour du départ en vacances.
L'animal évolué que nous sommes a gardé les mêmes leviers que n'importe quel animal. L'instinct de conservation, la reconnaissance. Il ne faut pas perdre de vue que manager des gens, c'est en permanence travailler sur ces 2 leviers, l'instinct de conservation, sans tomber dans le stress. Et quant à la reconnaissance, ben je crois que ça, là, c'est le rôle essentiel aussi du patron. Hein. Seul papa peut dire que papa est content. Et c'est l'essentiel du message que véhicule un patron quand il fait son tour d'usine tous les jours, c'est d'exprimer de la reconnaissance. Direct.
Dominique Verland a repris ce rituel du tour d'usine. Désigné par la famille Rousseau, propriétaire de l'entreprise, pour succéder à Jean-François Zobrist, il a été nommé directeur 3 ans avant le départ en retraite du vieux chef, promu pour ce laps de temps à la fonction tutélaire de directeur général.
Alors moi je suis rentré à Favi il y a plus de 23 ans et je n'ai connu que Favi.
Comment ?
Oui, je voulais vous remercier pour le bouquet de fleurs.
Ah, d'accord. Les fleurs qu'on a offertes à l'occasion de la fête des femmes.
Ouais.
C'est ça.
Cette entreprise, très tôt, a défini ses valeurs, les valeurs de base. L'homme est bon, et ça c'est une croyance. Les valeurs, bonne foi, bon sens, bonne volonté, bonne humeur. Un objectif, et qu'un objectif commun. Toujours faire plus et mieux, pour moins cher, à long cours, pour chacun de nos clients, dans le respect de la terre de nos enfants. Donc ces valeurs, je les porte. En même temps, qu'elles sont moi.
Il faut des valeurs morales pour assurer la pérennité, et des valeurs intellectuelles pour structurer l'espace. Et c'est une des premières choses que j'ai fait en arrivant ici, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est comme valeur morale ? On a 2 valeurs, et c'est le valeur de base. L'homme est bon, l'amour du client.
La plupart des entreprises ont un système tel, on a l'impression que c'est le patron qui paye tout le monde. Chez nous, tout le monde a compris que c'était les clients qui payaient. Et il ne fallait pas être dévoué au patron, il faut être dévoué aux clients.
Il y a une culture qui est faite quand même à travers la bonne foi, le bon sens, la bonne volonté, la bonne humeur. C'est écrit taxe service et on sait impertinemment, c'est pour ça qu'il y a le logo sur les t-shirts, on travaille par et pour le client. C'est notre devise, on sait bien que si le client ne achète rien, il meurt, il meurt.
Bébert ! Un truc qui me perturbe. Tu pourrais me redire ce que tu as dit la dernière fois, Cléon ? Les Catrax Famille, ah oui. Et les tiens.
Amour du travail bien fait, recherche de la perfection, sans signe du réglage et soumission totale à mon leader.
Soumission totale.
Le petit morceau dans des
non, 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 je
finis.
Pas soumission totale.
Soumission totale.
Monsieur Jobrès, il a dit loyauté envers votre leader.
Ah ouais,
loyauté.
Chez Favi, les slogans porteurs de la culture d'entreprise sont présents partout dans l'usine. Ils se déclinent sous diverses formes avec deux symboles récurrents. L'arbre, symbole de pérennité et d'abondance, et le cœur, symbole d'amour, celui du client, et de bonté, celle de l'homme. Cet ensemble de valeurs, intériorisées par les salariés, constitue une sorte d'ordre moral pouvant être vécu comme un système culpabilisant et d'interdits qu'il convient de ne pas transgresser.
On peut croire que, comme il n'y a pas de pointeuse, comme ils sont autonomes, eh bien, on se dit « Ah là là, il n'y a pas de système de contrôle », mais non, il y a bien un système de contrôle. Mais c'est un contrôle qui est intégré dans chaque opérateur, il est intériorisé et il se manifeste d'une façon groupale, ensemble.
On est sur cette croyance que l'homme est bon, s'il n'est pas bon, et si intentionnellement il n'est pas bon, il n'a rien à développer au sein de notre organisation.
S'il n'est pas bon, il se met à la voie tout seul, c'est-à-dire le groupe va le rejeter. Si le groupe a décidé qu'il n'était pas bon, il t'amène de quoi, je dirais, prouver qu'il n'est pas bon. Ben voilà, Jean-Luc, le mec, cette semaine, tous les jours, c'est 5h05, c'est 5h10, nous démarre les machines. On sait pertinemment qu'il faut tourner, donc les mecs, ça les fait chier, parce qu'après, il faut bourrer pour rattraper. Donc, ils te disent, tu dis, bon, écoute, on change, on essaie 8 jours. Ça va pas, je le prends en tête à tête, et j'arrête le contrat.
Quand vous avez une entité, qu'on appelle une usine, qui est responsable de A jusqu'à Z, oui, d'un produit, et qui rend compte devant le client, pas dans la direction, devant le client, il n'y a pas de tricheur dans un système comme ça. Ou le tricheur rentre pas, ou il s'excuse.
Qu'est-ce qui se passe?
Ah, ça y est.
Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Qui c'est qui était suspens dedans? Oui. L'intéressement.
Ah ouais,
non. Là, tu prends tout, là.
C'est bon, t'auras plus de nous, alors. C'est bien de la part.
Partage. Ouais. Partage avec les autres.
Ouais.
Ciao, oui.
Merci,
Jean-Jacques.
Merci, Jean-Luc.
Un tout petit morceau de la galette. Tactique. La galette.
Merci. Je te regarde, Jean-Pierre.
Tiens là. Intéressant, mon père. Quand ici qu'il me reste Christophe.
Là c'est on a le dernier la dernière partie de l'intéressement. Donc on touche une partie au mois de janvier, 70%. Et au mois de juin, vers la mi-juin, on touche les 30% qui restent. Et ça fait un global un peu plus de 1800 euros. Tout le monde touche en même temps, du tout petit, tout le monde est égal.
C'est-à-dire du directeur?
Du directeur à l'opérateur. Bon, après nous avons le 13e mois, que nous touchons une partie au mois de juillet et une partie au mois de décembre. Et après nous avons encore la participation bénéfice, qui est équivalent à l'intéressement. Moi je ne connais pas trop les salaires de tout le monde, mais en moyenne on va dire, c'est entre 1200 et 1300 euros. Et quand ça vous rajoutez les 4 mois en plus, ça nous fait en moyenne de 16 à 17 mois de salaire.
La vocation à l'entreprise privée, c'est d'être une machine à faire du fric. Et un patron est une machine à faire du fric. Alors c'est pas un patron. La seule différence qu'il y a entre ce qu'on a fait nous et ce qu'on fait les autres, c'est que nous, on part du principe que l'altruisme, une forme d'humanisme, est le meilleur moyen de faire du fric. Il ne faut pas tout mélanger, nous ne sommes pas humanistes par charité, par non, non, c'est pour faire de l'argent.
Régulièrement, les opérateurs rendent visite à leurs clients. Cette année, ceux de la mini-usine Renault sont partis 3 jours en Roumanie découvrir l'usine d'assemblage des boîtes de vitesse TL4 de Pitești, peu de temps après une importante grève des salariés roumains, conclue par une augmentation de leur salaire. Une visite qui n'a fait qu'accentuer les interrogations des opérateurs de la famille sur les risques de délocalisation dans leur secteur d'activité.
Puis l'ambiance était comment suite à leur mouvement de grève?
Ah oui, bon, écoutez, pour eux, ça va bien. Ils ont été à plus, parce
qu'ils sont plus rares du pâquerette. Ouais, ouais. Un jour, ils vont gagner un peu comme nous. Ouais.
Mais s'ils gagnent comme nous, peut-être après, nous, se poser des questions.
C'est-à-dire ouais, s'ils gagnent comme nous demain, c'est mieux pour nous ou c'est mieux pour eux?
Non, c'est mieux pour nous.
Pourquoi, Jean-Luc? C'est mieux pour nous.
S'ils ont le même salaire que nous, il n'y a pas de raison qu'ils aillent ailleurs.
Donc, ça vous a semblé quand même exorbitant que Renault investisse autant que nous là-bas?
Il faut qu'il n'y aura pas vraiment de l'argent, parce que ce qu'ils ont mis comme argent dedans.
Moi, j'ai été étonné de voir.
C'était si...
Moderne, ouais, c'est moderne. Des moyens, ils ont les moyens de travailler. Ouais. Mais nous on a ça, ouais. Nous,
on... Toi, pour toi, par la suite, ce qui fait la différence, c'est productivité et le savoir-faire, la qualité.
Voilà, voilà. Ce qui pourrait, s'ils viennent à une qualité comme la nôtre, ouais. Ouais, ça serait pas bon pour nous.
On a eu un concurrent qui, pendant 30 ans, un Anglais nous a embêté. Ça s'appelait Singer. Il a fini par déposer le bilan. Il y avait 200 salariés. Je l'ai acheté, je l'ai fermé, j'ai fait 200 chômeurs, on a rapatrié le travail en France à l'encours. N'importe quelle autre entreprise, en raison au court terme, aurait gardé l'autre fonderie qui était dans le sud de l'Angleterre, et aurait mis les deux entreprises en concurrence. Ce n'est pas notre cas. Nous, en fait, on veut rester à l'encours.
Chez Favi, le service recherche et développement compte 35 personnes, soit environ 6% des effectifs. Un chiffre particulièrement important, révélateur d'une volonté permanente d'innover pour trouver de nouveaux marchés.
Nous sommes convaincus que tout ce qui est manufacturier au sens large va logiquement d'ailleurs migrer vers les pays à faible coût de main-d'œuvre parce que c'est la logique et c'est l'évolution. Alors, fort heureusement, convaincus de ça, on a défriché, pour rester à long cours, une nouvelle dimension. On est en train de lancer des moteurs à très haut rendement qui, si toute l'Europe adoptait ce type de moteur, et ça va être imposé prochainement, permettrait déjà de remplir le quart des objectifs imposés par Kyoto. Au jour d'aujourd'hui, il démarre à peine les moteurs électriques. Il y a des groupes de réflexion pour chercher comment faire vivre 600 familles à Alencourt dans 20 ans.
Ici, l'entreprise ferme au mois d'août. Le jour du départ en vacances est donc un jour particulier. La pause casse-croûte s'éternise et constitue un moment privilégié de détente et de convivialité, parfois assombri par le départ d'intérimaire en fin de contrat.
Il faudrait que les lois changent, il faudrait que les patrons aient le droit qu'ils arrêtent un petit peu de prendre des ouvriers, qui viennent, ça fait... Après, quand ça mettons vraiment comme auparavant, c'était quand même pour remplacer vraiment des malades. Tandis que maintenant, c'est pour la charge de travail. La charge de travail, si on prend vraiment dans l'année, c'est quand même beaucoup de l'eau. Et puis bah, après, ils jouent là-dessus, la charge de travail qui augmente.
Moi, c'est beaucoup moins.
Vous avez quand même pour côté un souvenir de nous.
Voilà, voilà.
Alors, côté fourchette et côté nouveau projet, vous savez...
À midi, l'ensemble du personnel est réuni pour assister au grand rituel tribal, avec le discours du chef, la distinction des meilleurs de la tribu et la remise des trophées tant convoités.
Bravo à Patrice. Félicitations.
Parmi ces trophées, il y a celui du présentéisme, qui attribue par tirage au sort une prime de 750 euros placée dans une enveloppe.
Tout en billets. Hein?
Monsieur Alain Herbin, en bord de trophée.
C'est pas moi qu'il faut remercier. Hein?
Merci!
Thank you.
Favier, la plupart des ouvriers sont d'origine rurale. Fils d'agriculteur, Bernard a d'abord été ouvrier agricole, puis a intégré l'entreprise en tant que cariste.
En culture, si vous voulez, c'est une famille. On travaille pour ses parents. Donc on travaille dur. On travaille sans compter. En fin de compte, quand vous semez le blé, vous ne touchez pas l'argent tout de suite. Vous ne touchez qu'à la récolte. Donc on est venu travailler. Moi, je suis venu travailler à Favier en me disant, mon salaire, bon, c'est bien de l'avoir. Tout le monde est content d'avoir un salaire. Mais la priorité, c'était quand même de sortir le produit, que le client soit content. Ensuite, être payé du produit qu'on a sorti. Et je pense que c'est ça la différence avec quelqu'un qui n'a jamais travaillé en culture. On a une famille, c'est une famille. Moi, j'ai commencé à 9-10 ans derrière la culture. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça, ça forge. Je pense qu'on est plus apte à accepter des choses.
Ouvrier modèle, Bernard fut l'un des premiers opérateurs cooptés pour devenir leader. Il fut également le premier salarié de l'entreprise à se rendre au Japon. Depuis, tous les 2 ans, un groupe d'une quinzaine d'opérateurs part en pèlerinage à la Mecque de l'industrie mondiale pour un séjour de tourisme industriel. L'objectif de ces voyages d'études est double. D'abord, valoriser les ouvriers méritants et ensuite, observer les méthodes de travail appliquées au Japon afin de les traduire au retour en judéo-chrétien picard, terme cher à Jean-François Zouriste. Après plusieurs années de travail passionné, Bernard a choisi d'abandonner son poste de leader pour redevenir simple opérateur sans pour autant perdre son salaire.
Moi, j'ai eu l'avantage, c'est que j'étais honnête avec moi. Je me suis dit un jour, Bernard, je crois qu'il va falloir que tu arrêtes. Mais avant, bien avant d'en parler à M. Zoré, parce que tu n'amènes plus rien. J'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque parce que bon, ça modernisait. On modernisait tout le temps. Et puis, il fallait toujours se remettre en question. Quand vous avez 30 ans, 20 ans, 30 ans, ça va bien, 40 ans. Et quand vous avez passé cette cape-là, c'est plus lourd déjà. Puis vous assimilez plus pareil. Alors j'ai dit, peut-être qu'il est peut-être temps que je décroche. Ça n'a pas été facile de le dire. Parce que je ne savais pas comment M. Zobris allait réagir. Parce que...
Vous pensiez le décevoir, c'est ça?
Oui. Oui, c'est ma plus grosse crainte. Mais c'est dur quand même, hein. c'est assez dur. Hein. Je comprends que les gens qui sont en place ne veulent pas perdre leur place. Voilà. C'est autre chose, hein. Ça n'a plus rien à voir du tout. Hein.
Jean-Luc Damelincourt souhaitait lui aussi devenir leader. Et ses collègues ne l'ont pas coopté.
Je suis trop malheureux à Favier, loin de là. Hein. Mon boulot m'intéresse, en fond, pour moi, j'ai rien à dire. Mais ça m'a pris qu'un coup pour la place de leader. Quoi. Je suis arrivé à Favier il y a 21 ans. Je suis arrivé, on était entre 200 et 250 personnes. Il y a M. Dorbis, il avait son système pour que les opérateurs s'intéressent à leur travail, ouvert un peu à tous. Formation, tout ce qui s'en suit. Là, on est arrivé entre 500 et 600 personnes, je ne sais pas exactement combien il y en a. C'est un peu moins ouvert au niveau des gros opérateurs. Enfin, moi, je le prends comme ça. Maintenant, ça se passe entre leaders, quoi. Ils décident tout entre eux, que l'opérateur, pour moi, il est là, puis c'est tout. À mon avis, c'est une dérive qui se passe actuellement à Paris. Pour moi, c'est une dérive.
Monsieur, bonjour. Tu es en neuf, Jean-Luc.
Bonjour.
Qui c'est que je t'ai vu? C'est lui, je t'ai vu ce matin, mon frère. Ami, salut. Bonjour. François.
Salut.
Guillaume.
Salut, Jean-Luc.
Comment tu vas, mon frère?
Ça va.
Alors, je te présente... Ceci, je te présente Martine.
Martin, je te présente Bernard. Bernard, ça a été un des premiers leaders de Favier. Je suis arrivé en 85, moi je suis avec mon opérateur.
Et c'est lui qui m'a tout appris sur les machines, spécifiques d'usinage. Donc, ce qui m'a permis, moi, par la suite, de me dégager. Puis, grâce à son savoir, ce qui m'a transmis, de devenir leader aussi. Quoi. Mais à la base, c'est Bernard qui est là, qui nous a tous formés. Presque tous. Toute la génération qui est rentrée en 85. Ça a été le boom de l'automobile, ça a été le démarrage de la BE. Il fallait beaucoup de gens. On est rentré, on a vu beaucoup de monde. C'était une boîte jeune, la BE, et des jeunes pour travailler.
J'ai créé une caste et ma caste. La caste des leaders. C'est eux les garants du système. C'est plus les cadres, d'abord parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de service, mais il n'y a plus de chef de service. On n'a pas de service personnel. On a quelques personnes qui ont le statut cadre. Mais il n'y a plus cette notion de cadre qui encadre. Chaque équipe étant totalement autonome, y compris sur ses horaires, sur ses congés et sur ses salaires, j'ai pas de cadre qui dirige.
Chez Favi, il y a très peu de cadres. Et quand M. Zobrist a mis en œuvre ce système-là, il a eu une fronde de cadres, dont certains sont partis. Hein. C'est vrai que ce qu'on apprend dans les écoles de management, c'est comment vérifier, contrôler, organiser, diriger. Et ce que raconte M. Zobrist va un peu à contre-courant.
Salut Cyril. Comment tu vas ? Martine est là, c'est une étude.
Une étude sur la confiance. Et ça fait des années qu'il faut
être. Voilà. Alors Cyril, lui, son hobby, c'est l'informatique.
Ah, mon statut en tant que leader, je suis agent de maîtrise. Je suis agent de maîtrise au sein de l'entreprise.
En fait, c'est un travail de cadre que tu fais.
On pourrait dire ça, parce qu'en étant responsable d'une mini-usine, c'est comme si tu étais responsable de ton entreprise. Dès qu'on commence à parler de 20, même de 10, hein, tu as des entreprises qui ont des ouvriers. Hein. Mais bon, nous, les mini-usines qui tombent bien, ça va de 25 à 50 opérateurs.
Moi, j'ai de bonnes nouvelles, c'est bon pour... Enfin, les bonnes nouvelles, c'est normal. Très bien. Donc, pour ton congé de paternité.
Donc, tu fais un travail de cadre sans en avoir le salaire, ce qui évidemment réduit la masse salariale de l'entreprise.
Voilà, et puis je veux dire, ce qui te permet d'être compétitif au vie, parce que tout se gagne sur tout, quoi.
Est-ce que tout le monde a vu la pièce, non ? Non, hier.
Alors pour toi, la contrepartie, c'est quoi ?
Moi, dans le domaine industriel, j'avais aucune formation. Je suis rentré sec à sa pub boulanger. Finalement, je ne me suis pas né.
Alors, Fred, il est...
On ne va pas dire que je suis un rebelle, mais j'aime l'aventure, j'aime faire des choses. Donc, à travers la société, j'ai pu le faire. Si j'ai pu le faire, c'est quand même à travers un homme. C'est à travers M. Zobrist. Je pense que ce machin-là, si j'avais été ailleurs, j'aurais été mort là-bas.
Moins en moins de boulot.
Voilà.
Hein, qu'est-ce qui se passe
là tu remarques que toutes les machines tournent.
Bah oui.
Début d'année. Là, on a une grosse demande très forte au niveau de la TL4 sur Séville, Roumanie.
Oui.
Roumanie, ça commence. Et là, on voit que depuis quelques semaines, la conjoncture est défavorable. Donc Renault actuellement vit mal. Donc si Renault ne vend pas de véhicules, directement, tout ce qui est sous-traitant, nous pour la fourchette, on en subit les conséquences. Donc ce qui chagrine un petit peu actuellement, là, depuis 15 jours, c'est ce qui est dit au niveau des médias. C'est-à-dire Renault va licencier, Renault va chômer.
Ça, c'est le mois d'août. Ça, c'est septembre.
Voilà, c'est septembre. Donc, on voit bien, tu vois, là.
Regarde aussi cette
ligne. Là, t'as les lignes qui ne tournent pas. Tout le monde fait du moins 100, même les opérateurs qui sont actuellement dans la ligne. On voit bien, on tourne un peu au ralenti, ils font du moins 100. Est-ce que ça va durer ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça ? Tout le monde se pose la question. On a un peu les boules, quoi, quelque part.
Bonjour, la CGT, les élections de Prud'homme. Bonjour. Vous n'avez pas de syndicat là-dedans ?
Non.
Il semble que dans cette entreprise, il règne une certaine peur de pouvoir exercer le droit syndical comme il devrait l'être exercé. Artificiellement, on donne aux salariés l'impression, en quelque sorte, d'avoir une responsabilité importante dans l'entreprise. Bonjour, la CGT, pense que c'est de l'auto-exploitation. Alors c'est finement fait. Hein. Je pense que la direction utilise des moyens finement pensés et profite d'une main-d'œuvre que je dirais peut-être plus malléable qu'ailleurs pour pouvoir expérimenter ce genre de production. Si les salariés étaient au fait de ce que rapporte réellement leur auto-exploitation, comme je disais tout à l'heure, peut-être que la vision de ces salariés serait différente.
Malheureusement pour nous, ils ont des bonnes dividendes. Autrement, l'entreprise, elle serait peut-être plus ici. Nous, c'est l'entreprise familiale, c'est une seule famille, en fait.
Et c'est mieux, ça.
Oui, c'est mieux, oui. Oui, beaucoup mieux.
Un patron, on a beau jalouser un patron, mais un patron, tant qu'il se fera du fric, comme je dis toujours, il sera heureux. Les actionnaires, tant qu'ils se feront du fric, ils n'embêteront personne. Avant que M. Zobris il arrive, vous auriez travaillé en fonderie, vous ne voyez même pas les personnes au bout de la fonderie. Ils ont investi. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait du fric que pour avoir du fric.
S'il y avait eu un syndicat chez Fabien, est-ce que M. Zobrist aurait pu mettre en place son système qui est quand même très particulier, très original?
Moi, je pense que non.
Et pourquoi?
Parce que c'est deux clans toujours opposés, quoi. Et donc, il y a toujours un clan qui aurait empêché l'autre de faire ce qu'il avait envie de faire, quoi. Moi, je vais pas dire que je suis contre le syndicat, mais ici, je vois pas pourquoi il y a un syndicat. Si tu as quelque chose à dire, tu vas voir tu prends rendez-vous, puis tu vas discuter de ton problème.
Alors que dehors, la nature s'apprête à affronter l'hiver, l'arbre d'abondance qui décore l'entrée de l'usine demeure chargé de feuilles et de fruits. Un arbre aux allures bibliques qui semble éternel. Mais l'hiver s'annonce rigoureux. Les craintes de Jean-Luc se confirment.